Bonjour mes amis, dans quelques minutes, je vais vous parler du tout premier miracle que Jésus a accompli. C'est un moment extrêmement important pour de nombreuses raisons. Dans son évangile, Jean dit qu'il a relaté surtout certains miracles que Jésus a accomplis, parce que c'était des signes qui montraient qu'il est le Fils de Dieu. Cela va vous bénir, quoi que vous fassiez, consacrez-y les prochaines minutes. Lisons la parole ensemble. Bonjour, je m'appelle Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, d'une crise de santé ou de la recherche d'un but. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime. Et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, il a les réponses. Je suis content de vous voir ici. Si vous avez une Bible, ouvrez-la à Jean chapitre 2. Nous le lirons dans quelques instants. Au cours du ministère terrestre de Jésus jusqu'à sa crucifixion, Jean a choisi sept miracles ou signes. Puis il y en a eu un après la résurrection, un huitième au chapitre 21, et qui implique 153 grands poissons. Or, les signes sont des miracles qui enseignent des leçons. Ils ne sont pas relatés pour étonner, mais pour instruire. Ils nous apprennent à connaître Jésus. Ils nous montrent sa gloire et nous enseignent des leçons. Nous allons donc nous pencher sur le tout premier miracle du Christ, que Jean a relaté au chapitre 2, mais avant cela, prions. Père Céleste, nous calmons nos cœurs et nous laissons tous les soucis, le bruit, ce qui se passe dans notre vie, nous les mettons de côté pour l'instant et te demandons de nous confiner en toi. Enseigne-nous et instruis-nous. Nous te remercions pour l'Esprit Saint qui est présent parmi nous et demeure en nous, qui nous conduit et nous guide dans toute la vérité et nous enseigne. Seigneur, nous te prions avec le psalmiste d'autrefois de nous faire contempler les merveilles de ta loi. Et notre désir n'est pas de nous contenter d'écouter, mais de pratiquer ta parole. Jésus, sois glorifié. Amen. Amen. Encore une fois, soyez les bienvenus. Si vous êtes ici, si vous êtes dehors, sur la place, si vous regardez sur un écran, ou que vous soyez en ce moment, nous prions que Dieu vous parle. Le dernier prophète connu de l'Ancien Testament est Malachie. Jusqu'à la venue de Jean-Baptiste, qui était un prophète, il y a eu 400 ans de silence entre Malachie et l'arrivée de Jean-Baptiste. On n'a entendu la voix d'aucun prophète dans le pays. Et il est intéressant de noter que, selon les Écritures, Jean n'a accompli aucun miracle. Il était certes la voix de celui qui crie dans le désert, mais il ne faisait pas de miracle. En fait, le dernier miracle relaté dans les Écritures se trouve en Daniel 6. Daniel a été miraculeusement délivré de la fosse au lion. Entre ce passage de Daniel 6, le dernier miracle mentionné, et le premier miracle du Christ, relaté ici dans Jean 2, il s'est écoulé 450 ans. C'est très, très significatif. Nous le trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 2 et au verset 1. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue ». Je sais qu'en lisant cela dans notre Bible, cela paraît un peu dur, mais ce n'est pas du tout le cas dans la langue originale. En fait, le terme « femme » était un terme très affectueux. Quand Jésus est sur la croix, vous savez, il est sur le point de mourir. Il regarde Jean et lui dit, car Jean et Marie, sa mère, étaient là, il dit, écoute, prends soin de ma mère. Puis il regarde Marie et lui dit, femme, voici ton fils. C'était très, très émouvant. Et il a dit, « Mon heure n'est pas encore venue. Le temps de montrer ma gloire, de faire des miracles n'est pas encore venu. » Mais apparemment, Marie a eu une réelle intuition que son heure allait venir. Et il doit y avoir eu quelque chose dans l'inflexion de sa voix, son attitude, pour lui montrer qu'il allait faire quelque chose. Parce que, regardez ce qu'elle a dit tout de suite après. Au verset 5, sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune une 100aine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voici donc son premier signe, son premier miracle. Pourquoi est-ce le premier signe que Jésus a accompli? Et pourquoi Jean l'a-t-il relaté? Parce que ce signe symbolisait la conversion, la transformation. Ce signe symbolisait le changement. Et mes amis, le changement moral et spirituel est le premier objectif de Dieu pour les hommes. C'est dans cet esprit que je veux vous parler de la conversion, vous parler du salut à partir de cette histoire et partager avec vous certaines des vérités que, selon moi, ce signe est destiné à mettre en évidence. Tout d'abord, il est dit que l'organisateur du festin n'était pas au courant du changement. Seuls les serviteurs le savaient. Seuls ceux qui ont fait l'expérience de la conversion la comprennent. Vous savez, beaucoup de mes amis n'ont pas compris ce qui m'est arrivé quand j'ai été sauvé. On disait des choses comme « Bayless est différent, il lui est arrivé quelque chose, il ne se défonce plus, il ne se drogue plus avec nous, il est sobre. » Et tu ne vas pas le croire, je l'ai vu au parc l'autre jour, il lisait une Bible. Tu plaisantes, Bayless? Ouais, et il y a pire. Il parle de Jésus tout le temps et il va à l'église. Quoi? Je n'y crois pas. Moi non plus, mais c'est vrai. Ils ne pouvaient pas comprendre. Certains d'entre vous, vous avez été sauvés, et les membres de votre famille, vos amis, secouent la tête en se demandant ce qui a bien pu vous arriver. Mes amis, on ne peut pas le comprendre de l'extérieur. Il faut le vivre de l'intérieur, en naissant de nouveau, pour le comprendre. Et notez aussi que le contenu a été changé, mais pas les pots. 2 Corinthiens 4, 7 dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. » Vous savez, quand Jésus parlait à Nicodème de naître d'en haut ou naître de nouveau, Nicodème ne comprenait pas, il pensait uniquement au niveau naturel. Et Jésus lui a dit, « Écoute, ce qui est né de l'Esprit est Esprit, ce qui est né du Saint-Esprit est l'Esprit humain. » 2 Corinthiens dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes amis, cela se passe dans votre esprit. Vous êtes un esprit créé à l'image de Dieu et il se trouve que vous vivez dans un corps physique. Mais quand vous êtes sauvé, c'est votre esprit qui a changé, pas votre corps. Mes amis, si vous aviez des taches de rousseur quand vous avez été sauvé, j'ai une grande nouvelle pour vous, vous en aurez toujours après le salut. Cela ne change pas. Le pot ne change pas, c'est le contenu qui est changé. En ce moment, je contemple une salle pleine de pots. Mais il y a du vin dans les pots. Il y a plus en vous qu'il n'y paraît. Vous savez, je porte ce costume. Allez. Lève-toi. Bayless, tout le monde dit, Bayless, lève-toi. Lève-toi.
Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui.
Non, le costume prend vie quand je suis dedans. La veste bouge car je suis dedans. Mes amis, ce corps n'est que mon costume terrestre. Je vis dans ce corps, mais ce corps n'est pas moi. C'est mon temple. C'est mon sanctuaire dans lequel je vis pendant que je suis dans ce monde. Et il ne prend vie que parce que je suis à l'intérieur. La Bible dit que le corps sans l'esprit est mort. Il est sans vie. Il y a plus en moi qu'il n'y paraît. Il y a plus en vous qu'il n'y paraît. Et j'ai déjà reçu la vie de résurrection dans mon esprit. J'ai déjà reçu la vie de Dieu en moi, mais le jour vient où je serai changé à l'extérieur aussi. Le jour vient où les peaux seront transformées. Le sanctuaire, la maison dans laquelle nous vivons, le chapitre 8 de l'Épître aux Romains appelle cela la rédemption du corps. Écoutez 1 Corinthiens 15:51. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Quel jour ce sera ? Mais en attendant ce jour, nous avons le gage du Saint-Esprit. Et nous devons discipliner notre corps et faire en sorte qu'il nous soit soumis, même s'il ne veut pas obéir. L'apôtre Paul l'a dit, 1 Corinthiens 9:27, « Je traite durement mon corps ». Qui est le « je » dans ce verset ? C'est l'homme spirituel à l'intérieur. Et je le discipline, je vis dans ce corps. Il a dit, « Je discipline mon corps ». Et je le soumets, de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé. Et vous savez, on est sauvé à l'intérieur, et moi, je vis dans ce corps qui a été fort entraîné au mal depuis longtemps. J'ai un nouveau pilote à l'intérieur et le corps ne veut pas se soumettre à lui. Vous savez, la version Darby dit « Je mortifie mon corps et je l'asservis ». Quand j'étais petit, nous allions à la piscine publique. Ou si un enfant du quartier avait une piscine, on avait ces petites planches en polystyrène d'environ de cette taille, on les prenait, on les poussait vers le bas et on montait dessus. Ce truc voulait remonter. Et celui qui le gardait sous lui le plus longtemps gagnait. Et vous savez, c'est comme votre chair, votre corps. Il veut toujours se libérer. Aller quelque part où il ne devrait pas aller. Regarder quelque chose qu'il ne devrait pas regarder. Dire quelque chose qu'il ne devrait pas dire. Et nous devons garder notre corps soumis par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance de la parole de Dieu. Je peux soumettre mon corps et je peux le garder sous contrôle. Et plus je le fais, plus j'y arrive. Plus j'y arrive. C'est d'ailleurs intéressant quand Paul dit « je discipline mon corps ». Le mot grec traduit par « discipline » signifie littéralement « frapper avec un poing sous l'œil ». C'est exactement ce que le mot signifie « frapper sous l'œil avec un poing ». Une traduction dit « je frappe mon corps et je lui fais des bleus ». Ce n'est pas littéral, c'est une métaphore. En d'autres termes, il va y avoir un combat. Combien d'entre vous l'ont vécu ? Oui, votre chair veut faire des choses, mais il y a un combat. Vous, l'homme intérieur, si vous vous nourrissez de la parole de Dieu et fortifiez cet homme intérieur, si vous vous appuyez sur le Saint-Esprit, vous pouvez gagner le combat et vous allez devoir discipliner votre corps jusqu'à ce que Christ revienne. Et vous savez, l'idée, c'est que je suis changé intérieurement. Plus je me nourris de la parole de Dieu, plus je m'appuie sur son esprit, plus je suis transformé, plus mon style de vie, mes actions, mes méditations personnelles, mes paroles deviennent semblables à celles du Christ. Si je continue dans mon cheminement avec le Seigneur. Alors il est dit que ces pots, ces jarres étaient pour la purification des Juifs. Ils servaient à un rituel, à un lavage rituel. Ils se lavaient les mains jusqu'aux coudes, ils purifiaient les ustensiles dedans. Cela symbolise les rituels et la tradition religieuse. Mes amis, je tiens à vous dire que les rituels ne suffiront pas.
La tradition religieuse ne suffira pas. Beaucoup de gens pensent qu'en suivant des rituels et en adhérant à leurs règles et règlements religieux, cela va les sauver d'une façon ou d'une autre, ou leur ouvrir les portes du ciel. Mes amis, ce n'est pas vrai. Vous devez être changé. Le contenu du pot doit être changé. Les rituels ne vous sauveront pas. Avec Tom Schultz, l'un de mes amis les plus chers au monde, nous bavardions et je lui ai demandé la permission de partager ceci. Certains d'entre vous le savent peut-être, d'autres non. Tom a été prêtre pendant 16 ans. Et cela implique 4 ans de théologie, où ils étudiaient tout sauf les Écritures. Il était imprégné de traditions religieuses, de cérémonies, et il était très attaché à ces choses, très attaché à Dieu. Il aimait Dieu, mais il pratiquait les rituels, les cérémonies, mais il n'avait jamais entendu le message simple de l'Évangile, il n'avait jamais entendu la parole de Dieu. Et quand lui et sa femme, Trish, il a fini par quitter la prêtrise car il voulait se marier, lui et sa femme, Trish, ont entendu le message de l'Évangile, et ils ont été conquis. C'était la seule chose qui manquait à sa vie. Il avait les traditions, il savait allumer des bougies ou brûler de l'encens et réciter des prières. Même en latin, il savait faire tout cela, mais il n'avait jamais été sauvé. C'est comme Corneille dans Actes, chapitre 10. La Bible dit que Corneille était un homme pieux, c'est-à-dire qu'il avait une réelle crainte de Dieu et une réelle dévotion pour Dieu. Et pas seulement lui, l'Écriture dit qu'il avait enseigné à toute sa famille à craindre Dieu. Et ce n'est pas tout. Quand il a envoyé les gens et les soldats chercher Pierre à Jaffa, il dit qu'il a envoyé un soldat pieux. L'influence qu'il exerçait sur les gens pour les conduire vers Dieu s'étendait même aux militaires qui étaient sous son commandement. Cet homme avait une influence positive. Il est dit qu'il priait sans cesse et faisait de généreuses aumônes aux pauvres. Au point que Dieu s'est souvenu de ses dons et de ses prières. Un ange apparaît à Corneille et lui dit « Il faut que tu fasses venir Simon-Pierre. Il est à Jaffa, c'est là qu'il habite, il te dira ce que tu dois faire. » Répétez-le, « dois faire ». Pierre vient donc leur prêcher l'Évangile. Ils croient en Jésus et sont remplis du Saint-Esprit. Au chapitre suivant, acte 11, Pierre raconte à tous les croyants juifs de Jérusalem ce qui s'est passé. Et il explique en détail ce que Corneille lui a dit quand il est arrivé. Il explique qu'un ange lui est apparu et lui a dit « Envoie chercher à Jaffa un homme appelé Pierre qui te dira des paroles par lesquelles toi et ta famille vous serez sauvés. » Corneille était pieux, il craignait Dieu. Il priait, il donnait, mais il n'était pas sauvé. Dieu a choisi la folie de la prédication pour sauver ceux qui croient. C'est en écoutant le message de l'Évangile et en mettant sa confiance dans le Sauveur ressuscité, ce n'est pas par des rituels, ce n'est pas par nos bonnes œuvres, aussi nombreuses et louables soient-elles. Mes amis, le rituel religieux ne suffit pas. Jésus a dit « Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pourrez pas voir le royaume de Dieu ». Il faut mettre votre confiance en Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Au verset 7, Jésus dit « Remplissez d'eau ces jarres ». Il est dit qu'ils les ont remplis jusqu'au bord. Cela me plaît beaucoup. Ils ne les ont pas remplis à moitié, ils les ont remplis jusqu'au bord. Ils ont obéi avec zèle, et c'est ainsi que cela devrait être. Je pense qu'il y a bien trop d'activités sans conviction dans le corps de Christ. Ce que nous faisons, nous devrions le compléter jusqu'au bord. S'il s'agit de croire, nous devons le faire de tout notre cœur. Si nous prêchons, prêchons en toute occasion favorable ou non. Et pas sans conviction, comme si nous ne croyons même pas à ce que nous disons nous-mêmes. Si nous étudions, il faut sonder les Écritures dans tous les sens, les méditer, y réfléchir. Je veux dire, remplissez le vase de l'étude jusqu'au bord. S'il s'agit de prier, priez avec puissance. S'il s'agit de donner, faites-le avec libéralité. Versez jusqu'à ras-bord. La Bible dit dans Ecclésiaste 9:10, « Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. » Colossiens 3:23, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. » Et au verset 10, la partie intéressante de l'histoire, quand ils apportent ce vin au maître de la fête et qu'il le goûte. C'est qu'il appelle l'époux et dit, tout le monde sert d'abord le bon vin. Et après que les gens ont bu beaucoup, ils servent ensuite le vin plus médiocre. Tu t'y prends à l'envers, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à présent. N'auriez-vous pas aimé goûter à ce vin que Jésus a créé? Moi, j'aurais bien aimé. Écoutez, la vie chrétienne est meilleure que notre vie avant d'être sauvé. Ce que j'avais de mieux avant d'être sauvé n'est pas comparable à la vie que j'ai aujourd'hui. Mon ancienne vie était médiocre à tout point de vue, et je ne la reprendrai à aucun prix. Et avez-vous noté que Jésus n'a pas fait payer le vin? Il était gratuit. Oui, le salut ne s'achète pas, il ne se mérite pas. Voici la formule du salut, c'est par la grâce, au travers de la foi, plus zéro. La grâce est la main que Dieu tend vers nous. En offrant ce don gratuit en raison de ce que le Christ a fait, la foi est la main qui se tend pour la recevoir, plus zéro. Je ne peux pas y ajouter mes bonnes œuvres, ni mon mérite personnel. Rien, rien ne peut y être ajouté. C'est purement un don de la grâce de Dieu reçu par la foi. Et puis ce miracle de transformation a été accompli par la parole du Seigneur et par les actions de ses serviteurs. Des hommes et des femmes font l'expérience d'une vie nouvelle en Christ et sont sauvés, comme je l'ai dit avant, par la folie de la prédication. L'Écriture dit en Romains 10, 14, « Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ?» Vous savez, nous sommes nés de nouveau par la semence incorruptible de la parole de Dieu, a dit Pierre. Mais quelqu'un doit planter cette semence de la parole. Pour moi, ça a été un garçon de 12 ans dans un parc. J'avais frôlé la mort la nuit précédente à cause d'une surconsommation de drogue. Je me suis retrouvé dans un parc le lendemain. J'avais réussi à survivre à cette nuit-là. Un enfant de 12 ans s'est approché de moi et m'a parlé de Jésus. Personne n'avait jamais fait cela avant. Je n'avais jamais entendu l'évangile auparavant. Cet enfant a chamboulé mon univers. Grâce à son influence et à celle de sa petite famille, je me suis retrouvé peu de temps après dans une mission de rue où j'ai donné ma vie à Christ et je suis né de nouveau. Mes amis, cela m'est arrivé il y a longtemps. Mais je peux vous dire honnêtement qu'aujourd'hui, Jésus est aussi réel pour moi que jamais. Il m'a été fidèle au fil des ans. Et je l'aime. Il a été si bon pour moi. Et si je pouvais ouvrir votre tête et y déposer la vérité, je le ferais. Je veux que vous connaissiez Jésus comme je le connais. Il ne s'agit pas de règlements ni de règles ou de cérémonies religieuses sans âme, mais de marcher et de parler avec notre Créateur. Dieu veut que vous le connaissiez. Il a envoyé son Fils, Jésus, pour vous. Il est mort sur la croix pour vous. Il est ressuscité des morts pour vous, pour que vous puissiez avoir une relation avec lui. Si vous n'avez jamais invoqué son nom, faites-le aujourd'hui. Il vous attend et il vous aime, mes amis.
La semaine prochaine dans Réponse avec Belle Escandley.
Mes amis, la plupart du temps, quand Dieu se prépare à faire un miracle pour vous, il donne d'abord un ordre. Et quand nous obéissons, les miracles suivent. Notre rôle est d'obéir, discerner ce qu'il dit, puis le faire. Son rôle est de produire le miracle. Il peut vous sembler que Dieu joue avec vous, ou qu'il se moque de vous, mais ce n'est pas le cas. Souvent, Dieu va vous demander de faire ce qui semble ridicule avant de faire un miracle. Il vous dit de remplir les jarres d'eau, puis il la transforme en vin. Il vous fait jeter les filets, il les remplira de poissons. Il nous fait faire plusieurs fois le tour de la ville et crier, et lui fera tomber les murs. Notre rôle est d'obéir son rôle et d'accomplir le miracle. Vous savez, notre premier local est devenu trop petit en 5 mois. C'était une devanture de magasin. Puis nous avons loué un immeuble de bureau situé juste en bas de la rue, à 2 pas de l'endroit où vous êtes. À l'époque, quand nous avons loué ce petit bâtiment, si vous comptiez tous les adultes, tous les enfants, leur ours en peluche, et toutes les femmes enceintes 2 fois, nous avions 65 personnes. Cela faisait 40 ou 45 adultes peut-être. Nous avons loué l'endroit et j'ai acheté 160 chaises. Il y a eu quelques murmures à ce sujet. Quelle dépense inutile! Je me souviens qu'un des couples les plus fiables de l'église est venu me voir plus tard et a dit « Pasteur, on pensait que vous étiez fou. Vous avez acheté 3 fois plus de chaises que nécessaire. Nous avons pensé que vous aviez perdu la tête. » Mais vous savez quoi? Dieu a occupé les chaises. Dieu les a occupées. Nous avons dû ajouter un autre culte. Nous avions un culte du soir et elles étaient occupées. On a dû ouvrir les portes et mettre les chaises dehors. On a dû en acheter d'autres. On donnait des parapluies aux gens pour éviter l'insolation. Ils s'asseyaient sous la pluie et on mettait des haut-parleurs dehors. On a mis des chaises dans tous les couloirs. Pour aller aux toilettes, durant le culte, il fallait le faire sans bruit. Car il y avait des gens assis sur des chaises devant la porte. Ils entendaient tout ce que vous faisiez. On m'a dit « Pourquoi toutes ces chaises ? Je ne faisais que remplir mes jardins !» Et Dieu a fait sa part, il a occupé les places assises.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.
Vous êtes épuisé? Vous traversez une crise et vous ne savez plus quoi faire? Procurez-vous le livret gratuit « Saisissez la force de Dieu » de Bayless Conley. Vous y trouverez 4 étapes qui vous aideront à aller de l'avant avec une force renouvelée. Il vous suffit de vous rendre sur bayless-conley.fr/force. Vous pourrez y télécharger gratuitement le magazine au format PDF. Vous allez voir, Dieu vous réserve de bonnes choses.